you not interested, but you wanna party with the crew. I remember when you didn't like me, now you love me, wanna hug me.
Thomas Jones.
Yeah, you know how the story go, so the story flow. Keep their nose open in every line that I say about her. She conferred with her friend, and her friend, she agreed with her friend. Better tell her friend that she feeling me. I see how the game really changed. Bitches on Google trying to read up on your name, figure out your likes, hit you up on Twitter in the middle of the night, put a picture in your DM, baby doing TM. I know you get my nigga rum when you see him. I'm European, South Afro-Asian. My people's up in Canada, they know just what I'm saying.
If we wanna make love, 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 make love, make love, make love, if we wanna make love.
If the music is supposed to be the vibration, and the vibration that the music is giving you is not the vibration that you need to survive, then you've got to fight the music makers. Women who are strong and knowledgeable, who have 360 degrees of power.
No delay, second guessing, or no hesitation. Time is of the essence, not a second to be wasted. Stand firm when I walk, feel the ground shaking. Keep my sword flaming, see me waving at the beast aiming. The whole saga about the deep end, what do you believe in? My blade is on the jugular, decapitating demons. I don't defy the odds, I take the odds and make them even. Cause these motherfuckers play God more than Morgan Freeman. It's inevitable, the world can't stay the same. A new world is birthing, we can feel the labor pains. Falking off the major chains, ringing the alarms here. And if you weak, you gon' fold like a lawn chair. Right. The devil minions on the payroll for hire. People out here, they lost like a Uber driver. Nobody gon' pull you out the fire like MacGyver. You stuck still waiting on a mythical messiah. It's critical.
Every second on the clock, it's critical. Critical. You think it's sweet, but it's not. It's critical.
It's critical.
People tripping, they forgot.
It's
critical. It's critical. Critical.
Critical.
Yeah. Critical.
Yeah, yeah.
They wanna keep you blind. It's critical. It's
critical.
There's a war for your mind.
It's
critical.
It's critical.
That's the state of the critical, world today.
Critical,
critical,
critical.
No time to
play,
it's critical.
Fire started, never folding, I'm in overdrive. The real lion-hearted flow, every quote is five. Down to get it cracking, niggas know that I'm a ride. Unify with no divide, get the hood mobilized. You know it why, cause they want the death quota high. Get the people notified, higher minds coincide. Brainwashed niggas can't be around, y'all. Plus they arrogant and never see their own downfall. It's playing out in real time, watch it happening. Genetic modifiers in the food sex trafficking. Ways of these savage men, yeah, you gotta factor in. But it's all divine, nothing happening by accident. They always blame it on the women when the men fail. Choking when we inhale, breathing in the chemtrails. It's hard to explain, just try and listen. Spiritual war real, people think it's science fiction, but it's critical.
Every second on the clock, it's critical.
Critical.
You think it's sweet, but it's not.
It's
critical.
It's critical.
People tripping, they forgot.
It's
critical.
It's critical.
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 Yeah, yeah.
They wanna keep you blind.
It's
critical.
Critical.
There's a war for your mind.
Critical.
Critical.
That's the state of the
critical.
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 No time to play, it's critical.
These people are sharks, yo, snakes, piranhas, wildebeest. The lower reptilian brain, how these villains be. Gotta monitor the images the children see. Your vibration is your greatest artillery. Foot on their necks with my heels, time to break fools. Dead the lies, propaganda, and the fake news. Time for a breakthrough. Where's the higher reasoning? If the devil is a lie, why y'all believing them?
Every second on the clock, it's critical.
Critical.
You think it's sweet, but it's not.
It's
critical.
It's critical.
People tripping, they forgot.
It's
critical.
It's critical.
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 Yeah, yeah. They wanna keep you blind.
It's
critical.
Critical.
There's a war for your mind.
It's
critical.
It's critical.
That's the state of the
critical.
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 No time to play, it's critical.
Hold up and analyze. Come on, get on, get some.
Listen close as I prove my point.
We do our thing, son. Hold up and analyze. Come on, get on, get some.
Listen close as I prove my point.
Ready to make an entrance, so crack on
yeah. No comparison, we more solid than they are. Me and Hit-Boy, they say we like the new Gangstar. Me and Flocko, they say we the new wave guards. Shout to Max B, he could yeah. be home any day, God. Wake up out the bed, scruffy, sparking my J. Shine my nickel.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Nous sommes le samedi 16 septembre, il est 10h, l'heure de délibérer avec nous, évidemment. Aujourd'hui, vous êtes avec Mariam. Bonjour Mariam. Eh bien alors, t'es réveillée?
Oui.
Bon bah merci, dis bonjour quand même aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour. Bah oui, quand même.
Pas ouvert.
Bah si, ton micro est ouvert, voyons.
Ah d'accord.
Allez, bah, oh là là, on se réveille là quand même, il est 10h, il est temps. Bon, bref.
C'est le samedi.
C'est ça, on va dire t'as une excuse, c'est samedi matin.
Oui, oui.
Donc du coup, bah, Mariam qui va être en ma compagnie et moi à la technique. Une petite équipe, ok, mais c'est parce qu'on a la chance quand même d'accueillir pas mal d'invités ce matin. Donc pour l'instant, nous en avons deux qui sont arrivés à l'heure. Écoutez, je pense qu'on peut être déjà très fiers de ce résultat hein, pour un samedi matin. Et on a hâte de parler avec elles pour l'instant de leur rentrée, puisque ce sont donc deux professeurs des écoles, enfin en tout cas, une professeure des écoles et une qui aura peut-être un statut particulier à nous décrire par la suite et qui pourront nous parler donc de la fameuse rentrée scolaire. Est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter déjà à nos auditeurs et auditrices ?
Ah ben, bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Magali et effectivement je suis professeure des écoles dans une école en REP dans les quartiers nord de Paris, on va dire. Voilà.
Et bonjour, moi c'est Géraldine, je travaille donc dans la même école que Magali. Et par contre, ce petit statut un peu particulier, c'est que moi je suis professeure d'éducation physique, soit un professeur de la ville de Paris, et je ne m'occupe que de l'EPS avec tous les élèves de l'école. Voilà.
D'accord. Et si je ne me trompe, Magali est également autrice d'un livre sur l'enseignement de l'histoire en primaire des élèves à la conquête du passé qui est apparu en août 2023 aux éditions Libertalia. C'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est un livre, comme tu le disais, qui s'intitule « Des élèves à la conquête du passé » et qui paraît là en cette rentrée, donc aux éditions Libertalia, dans une collection qui est coordonnée par le collectif Questions de classe, la collection Notre École, et qui est une collection qui a l'ambition de parler pédagogie critique et de donner la possibilité à des praticiens et praticiennes, ceux que je suis, d'écrire sur leurs pratiques pédagogiques. Voilà, donc comme moi j'étais historienne avant, eh bien, j'ai fait un livre sur la pratique de l'histoire à l'école primaire.
D'accord, très intéressant, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Mais avant, commençons à parler de rentrée, parce que oui, vous êtes tous professeurs et nous sommes étudiants. Donc les galets de la rentrée. Pendant qu'on parle de la baya, et pourtant il y a des vrais problèmes au hasard, un manque cruel de professeurs. Quelles sont la situation dans votre école ?
Alors, je vais parler de la situation dans mon école, mais pas seulement, globalement. On nous avait promis, évidemment, comme d'habitude, un enseignant ou une enseignante devant chaque élève, et bien c'est faux. Notamment, dans mon école, il y a 3 enseignants et enseignantes qui enseignent à temps partiel, pour des raisons diverses et variées, choix personnels, besoins familiaux ou de santé, mais aussi des charges syndicales. Et lorsque nous sommes arrivés, et ben leur complément, les personnes qui devaient les compléter une fois par semaine n'avaient pas été nommées sur l'école. Et donc nous avons eu à la place des remplaçants et remplaçantes, ce qui vide le vivier des personnes qui peuvent faire des remplacements de courte durée lorsque l'un ou l'une d'entre nous est malade, et surtout ce qui désorganise complètement la continuité pédagogique de la classe qui est touchée par cette situation. Donc ça, c'est dans notre école, mais en réalité, ça s'étend partout en France, avec une situation qui est très critique, puisque vraiment c'était la désorganisation totale, et ce qui a obligé les petites mains du rectorat à devoir venir travailler 2 week-ends de suite à la rentrée, pour organiser tout ça, et le compte n'y est pas encore. Nous, on a un professeur qui ne connaît pas encore la personne qui va le compléter.
Oui, une rentrée bien compliquée. Disons. Et les salaires dans tout cela, est-ce qu'elles ont été revalorisées ou sont toujours, ou les salaires enfin, parce qu'il y a un souci de recrutement au niveau de l'éducation nationale par rapport au fait que les salaires ne sont pas assez attractifs pour recueillir de nouvelles et nouveaux enseignants au sein des écoles. Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, des solutions ou des choses concrètes mises en place pour régler tous ces petits soucis?
Alors, sur les salaires, parlons peu, parlons bien. Oui. Non, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. Ah. Il y a eu des primes.
Ah, des primes.
Ce qui, du coup, en fait, n'augmente pas les salaires et ne rentre pas en compte, notamment pour comptabiliser ce que nous toucherons, notamment à la retraite. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, oui, il y a eu des primes qui permettent d'augmenter, là maintenant, les revenus d'un certain nombre d'enseignants. Mais en réalité, on assiste à un tassement des revenus, oui. Puisque on augmente via des primes les revenus des débuts de carrière. Et moi qui suis à l'échelon 8 et qui donc ai une dizaine d'années d'ancienneté dans ce métier-là, eh bien, je n'ai pas de cette augmentation. Donc en fait, ça tasse les revenus, mais ça ne les augmente pas. Et par ailleurs, par rapport au pouvoir d'achat et par rapport au gel du point d'indice, le compte n'y est pas du tout. Voilà.
Surtout avec l'inflation, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, pas de salaire assez attractif ou de nouveaux recrutements au sein de l'enseignement.
Pas du
tout.
Et
je pense que ce n'est absolument pas la priorité de notre cher ministre de l'enseignement. Oui. Géraldine, par rapport à votre situation, enfin, parce que vous possédez quand même un statut assez spécifique au sein de l'école, comment ça se passe la rentrée? Parce que j'ai écouté un peu les interviews de notre cher président qui parlait de mettre en place et de mettre un point d'honneur sur l'éducation physique et culturelle au sein des écoles.
Surtout en année olympique.
Oui, voilà. C'est
ça les intéresse beaucoup de faire beaucoup de propagande là-dessus cette année.
C'est
évidemment.
Ça, la France, le pays de la culture.
Voilà. Oh, bon, écoutez, c'est toujours un peu de l'esbrouf, hein, comme pour les personnels de l'éducation nationale. Les problématiques sont les mêmes, il manque des professeurs d'éducation physique dans toutes les écoles à Paris, d'art plastique et de musique, car ce statut est un statut, nous sommes des agents territoriaux recrutés par la ville de Paris, avec un statut complètement calqué sur celui des professeurs des écoles de l'éducation nationale. Donc les salaires sont les mêmes, les inspections se font par les inspecteurs d'académie, comme pour les professeurs des écoles. Mais c'est cette double casquette entre la ville et l'État.
D'accord. Voilà. Et moi, j'ai une question par rapport aux élèves. Comment ils vivent cette situation? Parce que c'est difficile pour les professeurs, mais ça doit être pour des enfants, surtout en primaire. Ils sont un peu dans l'incompréhension. Il y a des profs qui manquent. Il y a des cours qui sont un peu, du coup, bâclés forcément, vu que il y a un manque cruel d'effectifs au sein des écoles. Comment ils vivent cette situation? Parce que surtout quand tu as des enfants qui sont entre 5 et 10... ils sont tout le temps à solliciter les professeurs, les maîtres. C'est compliqué à gérer, je pense.
Bah c'est vrai que présenter un enseignant qui complète l'enseignant principal le jour de la rentrée, le présenter également aux parents pour avoir à dire à toutes ces personnes 3 jours après que finalement, non, ce ne sera pas cette personne qui se chargera de la classe et de leurs enfants toute l'année, c'est un petit peu compliqué. C'est pas les mettre dans des bonnes conditions dès le début de l'année, hein, ça c'est vrai. Et moi, dans mon domaine en éducation physique, le dédoublement des classes en REP devrait me permettre de travailler aussi avec des classes à 12-13 élèves pour les petites classes de CP-CE1 qui sont dédoublées depuis maintenant 5-6 ans, je dis pas de bêtises, à peu près. Mais non, ça ne fonctionne pas pour nous, donc on a les casse-têtes des emplois du temps, puisque moi je suis obligée de travailler en regroupant 2 classes de 14 élèves, soit en réalité du coup 28, 29 enfants, alors que nous sommes dans un quartier d'éducation prioritaire. Mais pour ces disciplines artistiques et sportives, nous n'avons pas les moyens de travailler en petit effectif.
Oui, et quand vous dites ce qui est fort dommage. Et puis pour revenir sur la question du recrutement, très concrètement, donc comme tu le disais, Géraldine, on enseigne quand même en éducation prioritaire dans des quartiers populaires de la ville où l'éducation est vraiment nécessaire. Et on se retrouve dans des situations quand les compléments temps partiel ne sont pas là où de facto les enfants travaillent eux aussi à 80% de leur temps de classe ce qui est complètement scandaleux. Et par ailleurs, on sait aussi qu'à cet âge-là, les enfants ont besoin de stabilité pour pouvoir construire une relation, parce que notre métier tient beaucoup là-dessus, sur le relationnel avec l'enseignant ou l'enseignante. Et quand c'est le défilé des remplaçants et des remplaçantes différentes toutes les semaines, c'est très compliqué, ça c'est sûr.
Et au niveau des parents, enfin les parents, est-ce qu'il y a eu une organisation au sein des parents? Est-ce que les parents ont essayé de se mobiliser justement contre les conditions dans lesquelles on jette les enfants dès les premiers jours de la rentrée, et cela va durer certainement toute l'année et l'année d'après, parce que chaque année on a des mesures qui sont dites pour surtout pour les zones d'éducation prioritaire, mais qui sont jamais qui n'atteignent jamais leurs objectifs, ou ça reste toujours des mesures un peu superficielles et non concrètes. Et les parents, à un certain moment, je pense il doit y en avoir.
Alors, il y a de l'inquiétude, il y a de l'agacement, bien sûr, mais faut aussi savoir que c'est pas facile de s'organiser dans ces quartiers pour différentes raisons. Notamment parce qu'on a affaire à des populations qui sont sur des secteurs de travail qui connaissent la précarité, beaucoup travaillent en intérim. On a aussi des personnes qui ne manient pas forcément les codes de l'école, et donc c'est très compliqué de pouvoir s'organiser. C'est un petit peu pour eux la sidération, je dirais. Plutôt. Et le fatalisme, c'est vrai que du coup, quand la directrice dit aux parents... si vous pouvez garder vos enfants, parce que sinon ils seront répartis dans une autre classe et en réalité ils n'auront pas vraiment d'enseignement, les parents le font. Et il y a de l'indignation, ça c'est sûr, mais l'organisation est compliquée.
D'accord. Ah oui, vraiment, situation, je n'essaie de le répéter, mais c'est vrai, la situation elle est critique au sein des écoles, et vous vous mobilisez, est-ce que, justement, là je parlais des parents, est-ce que du côté des professeurs, ça se passe comment pour vos revendications? Certes, je pense qu'elles ne sont pas entendues, mais bon, comment vous essayez de mener le combat au sein des écoles et à l'échelle un peu plus nationale pour faire avancer les choses?
Bon, nous, on travaille dans des quartiers où les professeurs sont quand même très, très concernés, très engagés, politisés, syndiqués.
Soudés.
Ça, c'est vraiment un truc très fort, notamment dans notre école, dans notre groupe scolaire. On est extrêmement soudés.
D'ailleurs,
la grève de l'année dernière a été très, très suivie sur les retraites.
D'ailleurs, je voulais peut-être quand même préciser, pour un souci quand même d'honnêteté intellectuelle, qu'il y a une de vous donc, qui est syndiquée chez Sud Solidaire, c'est bien ça?
Chez Solidaire, oui, tout à fait, Sud Éducation. Voilà, mais dans le quartier où nous sommes, il y a aussi une organisation à travers toutes les écoles de l'arrondissement qui fonctionne sur une assemblée générale assez horizontale en réalité, dans laquelle on va retrouver effectivement des personnes syndiquées, mais des personnes aussi non syndiquées. Et l'organisation, elle est là et elle tient la route sur effectivement des critères de solidarité et de conscience collective et commune, vraiment.
Du coup, oui, les professeurs ont bien et belle des revendications et une organisation pour mener leur combat, mais vu que l'actualité de la rentrée scolaire est monopolisée par les questions de style vestimentaire qui préoccupent plus notre cher ministre que les vrais soucis que rencontrent les professeurs, les étudiants ou même les élèves au sein de les écoles. Et maintenant, j'ai entendu parler aussi d'une équipe spéciale pour les remplacements de courte durée. Est-ce efficace?
Alors,
il y en a de moins en moins, surtout.
Surtout,
moi, je suis dans cette école depuis 18 ans. Je crois que c'est ma 18e rentrée dans cette école. Et quand je suis arrivée, ce vivier de remplaçants de courte durée, à vue de nez, ils étaient à peu près une dizaine. Pour la circonscription, donc pour à peu près une trentaine d'écoles maternelles et élémentaires, à peu près. Aujourd'hui, ils sont deux.
C'est ça.
Deux surtout, affectés à cette circonscription.
Et surtout, c'est l'organisation ne se fait plus au sein des circonscriptions, qui sont en fait des découpages territoriaux. L'exemple du 19e arrondissement, on a quatre circonscriptions sur l'arrondissement.
C'est un des plus gros de Paris avec le 20e, donc il y a beaucoup de circonscriptions.
Voilà. Et les remplaçants de courte durée, maintenant, sont gérés au niveau parisien, totalement, par le rectorat. Ce qui donne, évidemment, une désorganisation totale, puisqu'il n'y a plus de réalité locale.
puis qui donne aussi, je pense, la priorité un peu à l'école qui va crier le plus fort pour avoir quelqu'un.
Voilà.
Et souvent, on voit même des situations à cadabrantesques où un enseignant est délogé du remplacement qu'il est en train de faire dans une école pour aller faire un remplacement ailleurs. Hein, l'idée d'aller déshabiller Paul pour habiller Jacques, parce que dans cette école-là, les parents ont crié plus fort, ou bien il y a eu... Voilà.
C'est... Oui, c'est arrivé à un de nos collègues récemment.
Oui, oui. Il a commencé un remplacement pour 4-5 jours dans une école, et puis au bout de 2 jours, on l'a appelé en lui disant non, finalement, il va falloir aller remplacer ailleurs, parce qu'ailleurs, ça devait crier un petit peu plus fort ou taper du poing sur la table un petit peu plus violemment. Voilà comment ça se passe, les remplacements.
Du coup, ça revient à mettre les écoles compétition entre elles.
Diviser pour mieux
tout
régner,
c'est
l'idée.
C'est horrible. Donc, tous les élèves ne sont pas, et les enseignants ne sont pas égaux.
D'ailleurs, ce que je voulais savoir aussi, c'est que là, on parle du manque de professeurs, de remplaçants, mais il y a aussi la question de tous les encadrants, de tous les auxiliaires, comme les AESH, qui normalement sont censés pouvoir encadrer, alors soit des élèves en situation compliquée, soit psychologique ou de santé mentale compliquée, soit même les psychologues. Enfin, voilà, j'aimerais bien que vous reveniez aussi sur cette situation.
Sur les AESH, effectivement, la situation est critique. Pour prendre l'exemple de notre école, on a de nombreux élèves qui ont besoin et qui ont une notification de la MDPH avec un volume horaire sur la semaine qui devrait leur permettre d'avoir un ou une AESH durant ce volume horaire. Et en réalité, les personnels qui sont nommés pour faire ce travail-là, eh bien, doivent suivre 2 voire 3 élèves. Et du coup, par exemple, un élève qui doit bénéficier de son AESH pendant 18 heures, mais l'AESH en question doit suivre en même temps 3 élèves, forcément, il n'aura pas ses 18 heures. Ça ne marche pas mathématiquement. Je ne sais pas, il faudrait que le ministère apprenne à compter. Ça serait chouette, parce que franchement, c'est la honte. Ça, c'est vraiment la honte, parce qu'on parle d'école inclusive, mais en même temps, il faudrait qu'on ait les moyens de le faire. Et je trouve que là, il y a vraiment une atteinte à la dignité de la personne que sont ces élèves-là, qui ont de réels besoins, et puis une atteinte à la dignité de la personne au sens large aussi. Parce qu'en réalité, nous, enseignants et enseignantes, et les élèves aussi, ça les met dans des situations où cet enfant qui, de toute façon, va être à l'école, parce que c'est sa place, mais qui n'a pas, qui ne bénéficie pas des soins dont il a besoin, et ben ça va le stigmatiser, ça va le mettre dans une situation où il sera hors cadre, et du coup ça va engendrer encore plus de difficultés pour l'enseignant ou l'enseignante, pour les élèves qui sont dans la même classe que cet enfant, et évidemment en premier lieu pour cet enfant. Donc ça, c'est un vrai scandale, c'est sûr.
D'accord. Du coup, j'imagine bien qu'avec toutes ces conditions qui se dégradent, j'imagine que la pression, elle monte du côté des professeurs. Mmh. Et du coup, Magali, tout à l'heure, on a introduit le livre. Et donc, je pense que le livre est un peu une question, une réponse à ces conditions qui se dégradent. Donc, si tu peux nous en parler un peu plus en profondeur.
Oui, c'est vrai que c'est un peu une réponse alors, qui est à côté, mais en même temps... Voilà, moi, j'ai fait le choix dès le départ de mon entrée dans ce métier de travailler avec les méthodes de la pédagogie Freinet, qui est une pédagogie centrée sur l'enfant, sur des pédagogies dites actives, et centrée sur l'idée que l'enfant va pouvoir entrer dans les savoirs si il en est auteur ou autrice. Ça, c'est la première chose. Et aussi, si on arrive à faire rentrer la vie dans la classe et partir de ce que l'enfant est pour pouvoir construire ensemble ses propres savoirs. Donc ça, c'est un choix pédagogique très fort qui est compliqué à mener, parce que c'est pas de la pédagogie traditionnelle du tout. Et moi, j'estime que, en particulier en ce qui concerne l'histoire, c'est une réponse forte, notamment à la ségrégation que connaissent les enfants des quartiers populaires. Et j'estime que, non pas en enseignant l'histoire, mais en faisant pratiquer l'histoire aux enfants, on est dans une double émancipation. La première, elle est intellectuelle, très clairement, parce que faire de l'histoire, c'est un excellent laboratoire pour construire sa pensée, confronter des sources, plonger dans l'enquête sur le passé, produire de l'écrit, produire des connaissances, devenir historien ou historienne quand on est enfant. Et ça, l'émancipation intellectuelle, elle est très claire. Et puis la deuxième, c'est l'émancipation personnelle, au sens où, en fait, on a quand même globalement affaire à des enfants des classes populaires, à des enfants racisés. C'est une histoire qui ne fait pas partie du roman national tel qu'il devrait être enseigné. Or, et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas l'histoire, je pense, or, c'est quand même leur réalité. Donc, en fait, dans ma classe, on va partir de méthodes qui permettent de partir de eux, leur vécu, leur trajectoire, pour ensuite faire de l'histoire au sens... on va pratiquer de façon très fine des recherches, mais en partant de leur histoire à elle et eux. Et cette année, je me demande si c'est un hasard, mais je ne crois pas tout à fait. Mes élèves ont choisi. Donc moi, je commence toujours l'année en demandant aux enfants « Mais au fait, à quoi ça sert de faire l'histoire et pourquoi on en fait à l'école ?» Donc, il faut aller les chercher un peu hein, pour qu'ils sortent de « Ça sert à avoir des connaissances, etc. » Mais finalement... cette année, ce qu'ils ont demandé, c'est que, comme fil rouge, on ait l'histoire de l'esclavage et l'histoire du racisme.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Ah, ça, c'est un sujet intéressant.
Et du coup, tu parlais de la pédagogie alternative de Freinet. Est-ce que c'est, du coup, est-ce que c'est une pédagogie, vu que c'est quand même des méthodes d'enseignement alternatives, est-ce que ça porte vraiment ses fruits? Parce que moi, j'ai assisté récemment à une conférence justement sur la pédagogie de Freinet et on parlait justement de la limite de mettre une telle pédagogie dans un système comme la nôtre actuellement. Donc, elle a ses limites, même si elle est très intéressante. Ça peut être intéressant surtout pour des élèves qui sont en difficulté parce que c'est une pédagogie qui est axé sur la créativité et sur la personne. Et non,
déjà, à la base, quand Élise et Célestin Freinet ont commencé à travailler, leur idée, c'était quand même qu'ils allaient intervenir au sein de l'école du peuple. Oui. Donc ça, c'était quelque chose de très fort. Et la pédagogie Freinet a une portée éminemment politique. Maintenant, actuellement, même si c'est une pédagogie qui est extrêmement vivante, hein, oui. Le mouvement de l'ICEM, Pédagogie Freinet, est national et même international. Bien sûr, il y a des limites. D'abord, la première, c'est quand on est tout seul à bosser en pédagogie Freinet dans son école, oui. Que les élèves arrivent en classe de CM2, il y a tout un moment où il va falloir construire la coopération, la construction des savoirs par les élèves. Donc ça, c'est une première limite. Et la deuxième limite que je pose actuellement, c'est celle des inégalités sociales. Qui est posée très fortement par les sociologues de l'éducation et qui est une réalité. La pédagogie Freinet, elle fonctionne sur ce qu'on appelle la méthode naturelle et le tâtonnement expérimental, où les enfants seraient face à des méthodes, des pratiques de référence, donc comme l'histoire, la science, etc., et devraient accompagnés par l'adulte, l'enseignant, pouvoir construire eux-mêmes leur savoir. Oui, pourquoi pas. Sauf que quand on est dans une école où c'est assez mixte, on va avoir des enfants qui vont avoir les codes de la culture, pour qui ça va être facile, qui vont faire leurs exposés à la maison, etc. Et puis on va avoir des enfants des classes populaires qui, eux, n'ont pas les codes et qu'il va falloir accompagner. Donc cette pédagogie dans l'école, elle ne peut fonctionner que si l'enseignant est là pour faire de la didactique, pour accompagner ce que c'est que la construction de la pensée. Et ça, effectivement... On est pédagogue Freinet avec cette haute idée que c'est l'école du peuple seulement si on croise les deux choses.
Eh bien, écoutez, je pense que sur Radio Libertaire, on aime parler d'éducation, justement parce que l'institution actuelle est plus une machine à formater des humains et qu'un lieu de passation des savoirs et du coup de t'entendre parler de ces solutions qu'on pourrait apporter dans ces nouvelles méthodes pédagogiques, en tout cas dans l'enseignement de ces méthodes pédagogiques qui existent, et c'est vraiment très enrichissant et ça prouve quand même que les enseignants ont des solutions à proposer et aussi de bonne musique, puisqu'on va écouter une petite suggestion musicale de nos invités.
Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit.
Put it in the connection. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Hey, teacher, leave them kids alone.
All in all, it's just another brick in the wall. You're just another brick in the wall.
C'était évidemment Another Brick in the Wall des Pink Floyd. Je suis désolée pour l'accent, c'est vraiment terrible, mais vous auriez tous compris, j'imagine. Et voilà, donc cet hymne à la rébellion scolaire, donc on la doit à nos trois invités. Alors pour l'instant, on en a donc deux, mais bientôt trois, incessamment sous peu. En attendant, nous sommes donc avec Géraldine et Magali, professeurs des écoles et enseignante dans le primaire, qui nous parle un petit peu méthode pédagogique, on va dire, nouvelle. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la méthode Freinet ?
Alors oui, sur la méthode Freinet, donc comme on le disait hors antenne, et comme je l'ai un petit peu introduit tout à l'heure, c'est vraiment une pédagogie qui est à l'heure actuelle extrêmement vivante. Bon, c'est pas pour donner de la comptabilité, mais au dernier congrès de l'ICEM Pédagogie Freinet qui vient d'avoir lieu là, fin août à Nanterre, on a rassemblé quelques 600 personnes. Venu évidemment beaucoup de France, mais aussi d'un peu partout dans le monde, notamment effectivement c'est une pédagogie qui va croiser par exemple les pédagogies de Paulo Freire par exemple, et donc qui est très 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 vivante, notamment aussi dans les campagnes, dans des endroits où les enfants vont être mis en multi-âge, et ça c'est quelque chose de très important.
D'accord. Mais du coup, cette pédagogie de Freinet qui est assez intéressante, mais je pense que c'est un peu compliqué dans sa mise en application au sein de nos écoles actuellement, vu à quel point les classes sont surchargées. Ça doit être un point un peu complexe pour vous, en tant que professeur, de vous donner à ce genre de méthode.
C'est sûr. C'est sûr que quand on veut faire rentrer la vie dans la classe, que quand on veut créer de la coopération et de l'autogestion avec les enfants et qu'on se retrouve avec un groupe de 25 ou 30 dans un espace réduit, c'est compliqué. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai la chance d'enseigner dans une école où cette année, j'ai 22 élèves, ce qui est déjà beaucoup. Les années précédentes, j'avais plutôt 18 ou 20 élèves et ça, c'était très confortable. J'ai la chance d'avoir une classe qui est spacieuse et du coup dans laquelle je peux mettre en place des espaces. L'espace histoire, l'espace géographie, l'espace bricolage, l'espace science, l'espace art, où je peux disposer mes élèves en îlot et donc faire naître la coopération et l'autogestion en demandant aux élèves de travailler en équipe Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. C'est aussi une pédagogie qui travaille à partir d'un conseil de coopération qui se réunit toutes les semaines, qui réunit tous les élèves et l'enseignante. Mais c'est très horizontal. Et à ce moment-là, moi, je suis à égalité avec mes élèves. Et tout au long de la semaine, tout le monde, moi comme les élèves, ont pu s'inscrire pour élaborer des propositions pour la classe qu'on étudie en conseil, que l'on va voter ou pour lesquelles on va voir s'il y a des oppositions ou non. On va pouvoir régler des conflits, des problèmes ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un espace dans lequel on se construit ensemble. Et effectivement, si on est un peu trop nombreux, ça peut être compliqué. Mais il ne faut pas oublier que Élise et Célestin Freinet ont pratiqué cette pédagogie avec entre 30 et 40 enfants dans leur classe. Donc en réalité, voilà.
Ça peut se faire. Donc les élèves sont très réceptifs vers ce genre de méthode d'enseignement où ils ne sont plus passifs, mais ils sont aussi acteurs dans les classes. Ils ne sont pas juste là à écouter des cours sur l'histoire où ils sont totalement déconnectés un peu de ce qui se passe autour d'eux. Sachant que oui, surtout dans les zones d'éducation prioritaire où tu as des enfants, qui, comme tu disais précédemment, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas tous les mêmes codes culturels, où c'est un peu compliqué aussi d'aborder passage de l'histoire avec eux, surtout avec face à des élèves qui sont racisés ou aborder la question du racisme, de l'esclavage. Ça peut être assez déroutant ou même un peu violent pour eux d'être encore assis dans une classe où on les parle de les histoires tout en étant encore passifs et subis la chose. Et donc,
effectivement, d'abord, si on travaille bien, très rapidement, les enfants prennent le pouvoir,
oui.
Ça c'est clair. Mais comme il y a cette instance, le conseil de coopération, et notamment ce moment du conseil où on va régler des conflits, régler des problèmes, on va aussi ensemble construire le cadre, de la même façon qu'on va le faire, nous, dans nos organisations politiques, dans nos organisations syndicales. En fait, on va leur apprendre à se répartir la parole, à s'écouter les uns les autres. Et ça nécessite... En fait, on va mettre en place tout ce qu'on met dans une classe habituelle, donc le non-bavardage quand quelqu'un parle, et la concentration, etc. Parce que c'est au service du collectif, c'est au service de tous les enfants qui travaillent, et donc c'est parce qu'on en a besoin. Et ça, c'est un élément très fort et très puissant pour moi de la pédagogie Freinet. La deuxième chose, c'est effectivement faire rentrer dans les apprentissages des enfants qui sont face à des apprentissages habituels qui, soit au mieux, ne leur parlent pas, au pire, les agressent.
Oui.
Et là, moi, la façon dont je bosse en histoire, je nommerai l'exemple d'une petite fille, Amel, pour ne pas la citer. C'était il y a 2 ans maintenant. On reprend la classe le 18 octobre, donc le lendemain du 17 octobre 61, et au point info du lundi matin, c'est moi qui prends la parole et qui parle de ce que j'ai fait la veille, à quelle manifestation commémorative j'ai assisté, et à mon grand désarroi, nombreux enfants dont les parents sont d'origine algérienne ne connaissent pas forcément cette histoire. Et donc j'explique. J'explique d'où ça vient, à grands traits, la guerre d'Algérie. Et à la fin, cette petite fille vient me voir et vient me remercier. Elle me dit « Merci maîtresse, parce qu'en fait, tu me parles d'une histoire que je connais pas vraiment, mais qui est celle de mes parents. Et en fait, ils en parlent beaucoup, ils pleurent, et comme c'est dur, ils veulent pas m'en parler. » Ça, c'est le premier acte d'Amel. Et puis, quelques temps plus tard dans l'année, on s'engage dans un gros travail de production de fiction historique sur la Première Guerre mondiale, qui engage tous les enfants. Et Amel arrive un matin en me tournant autour et en me disant « Maîtresse, je sais, c'est pas le moment, on est en train de faire autre chose. Mais moi, j'ai écrit une autre fiction et s'il te plaît, lis-la. » Je prends. Et le soir, chez moi, je lis. Et en fait, Amel a commencé une fiction qui s'intitule « L'histoire de Sarah, la première femme qui a résisté à l'armée française en Algérie. » Ok, on y est. Et l'histoire est très courte, mais notamment, à un moment, Sarah se fait capturer par les soldats de l'armée française et se fait torturer. Ce qui est étonnant dans le récit de cette gamine, c'est que, en fait, la torture, les éléments de torture qu'elle donne ne sont pas du tout ceux que l'on connaît et qui se sont réellement passés pendant la guerre d'Algérie. Donc le lendemain, je prends la petite fille à part et j'en parle avec elle. Et elle me dit « Oui, j'ai pas voulu mettre les coups d'électricité et tout ça parce que, ça me faisait trop mal que mon personnage vive ça, mais je sais que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. » Et de là s'engage un travail double travail avec cette petite fille. D'abord, production d'une fiction historique sur cette histoire-là, et ensuite un texte documentaire sur la guerre d'Algérie à destination de ses camarades. Et évidemment, elle va très très loin dans les méthodes historiques. À un moment, elle a même besoin de contacter Raphaël Branche, à qui elle écrit, pour répondre à ses questions, pour que ses textes aient vraiment un goût de vrai. Et puis, moi, je le fais en accord avec les parents, et notamment le papa, dont le père est mort dans les maquis du FLN. Et le papa me remercie en me disant « merci, parce qu'en fait, personne n'a jamais... parler à nos enfants comme ça de leur histoire. » Et moi, ça m'a permis d'en parler à mes filles. Donc voilà, c'est aussi ça la pédagogie Freinet. C'est une rencontre avec l'histoire des enfants et ce que c'est que vraiment faire de l'histoire. Parce que Amel, pour pouvoir construire tout ça, elle a vraiment mené un travail historique de recherche. D'abord en écrivant à Raphaël Branche. Et puis par exemple, en construisant une chronologie vivante. En haut de la chronologie, il y avait les éléments de la guerre d'Algérie, donc c'est un travail vraiment d'historien, d'historienne, et en dessous, la vie de son personnage, Sarah. Voilà, on est dedans.
C'est très intéressant. Merci Magali de nous avoir partagé l'histoire de la petite Amel. Je pense que du coup, ça donne un peu d'espoir concernant le fait que oui, dans l'enseignement, il y a encore des profs qui sont... toujours passionné par ce qu'il faisait, parce qu'il y a plein de profs qui arrivent dans ce milieu avec énormément de passion, par l'amour de l'enseignement et de la transmission du savoir, et qui se retrouvent dans une situation où ils sont complètement désarmés et qui en perdent toute passion au final pour ce qu'ils sont venus réellement faire. Et c'est aussi l'occasion de parler du pacte enseignant qui met encore mal le travail des profs au sein des écoles. Parce que Macron essaye de réinventer le travail salarial. C'est génial.
C'est génial, oui, tout à fait. Le pacte, qu'est-ce que c'est? C'est nous faire miroiter qu'on va être payé plus, mais en travaillant plus. Ça, c'est la première chose. Alors déjà, je précise que c'est un échec, le pacte. Il y a très peu de gens qui l'ont signé. Et puis, la deuxième chose, c'est que, clairement, c'est organisé en salle des maîtres et maîtresses, ou en salle des profs dans le secondaire, la concurrence. Puisque, en fait, le pacte, on a des missions qui nous sont proposées, avec à la clé une rémunération. Mais les missions, il n'y en a pas pour tout le monde. Et puis, il y a des missions prioritaires et dans certaines académies, pour pouvoir avoir accès à des missions qui seraient vraiment pédagogiques, il faudrait d'abord, en tant que professeur des écoles, accepter d'aller faire du soutien scolaire au collège. Voilà. Alors, comment? Je ne sais pas, parce que moi, ça va. Notre école, elle est mitoyenne avec le collège de secteur, mais pour autant, je n'accepte pas. Mais dans les milieux ruraux, comment on fait? La prof qui est toute seule dans sa classe en race campagne et puis qui voudrait accepter le pacte parce que elle a besoin de sous, grosso modo c'est ça, et qui devrait aller faire après la classe du soutien scolaire dans le collège de secteur. Je demande. C'est assez mystérieux tout ça.
Oui, c'est très mystérieux et du coup tu disais quelque chose d'assez intéressant. Ça revient aussi à mettre les profs en compétition entre eux. Et ça, je pense, comme Géraldine l'avait souligné, diviser pour mieux régner.
Tout à fait.
Et est-ce que au sein de votre académie, c'est quelque chose qui se ressent, les profs qui seront un peu tentés d'accepter ou de tomber dans le piège
C'est difficile de parler au sein de l'académie, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est très soudés au niveau de notre arrondissement et globalement du nord-est parisien. Voilà, j'ai du mal à répondre à ça.
Mais ça fonctionne dans certains établissements, surtout dans le secondaire, où des enseignants vont vraiment se monter, liguer les uns contre les autres, pas pour ce pacte.
Pour des questions
clairement,
de
entre
pognon.
Ceux qui l'acceptent, qui le signent pas. Et encore une fois, c'est lié à l'argent, donc on touche...
Un point sensible,
exactement.
Très sensible chez les professeurs.
Moi, j'aimerais bien, à la suite de ça, revenir, comme tu nous as évoqué un témoignage quand même assez touchant. La question que je me pose, en fait, c'est surtout comment est-ce qu'on fait quand on est enseignant pour promouvoir ce type de pédagogie ou pour résister au pacte enseignant quand justement bah voilà, on a des collègues qui peuvent être poussés à faire autre chose, à ne pas forcément avoir le même investissement dans leurs cours, prendre le même soin à accompagner les élèves dans leur trajectoire personnelle parce que bah oui, en fait, on a tous nos obligations, nos contraintes matérielles et comment c'est possible de créer la solidarité en fait entre vous.
Alors, en ce qui concerne les méthodes pédagogiques et le fait de promouvoir la façon dont on travaille en pédagogie active, etc., là encore, le nerf de la guerre, c'est le collectif. C'est le collectif de travail. Au sein de l'ICEM Pédagogie Freinet, on est organisé en fédération. Et donc, on a des groupes départementaux. Pour prendre l'exemple de celui de Paris, on se réunit un mercredi par mois dans une école et où on fait de l'échange de pratiques, où on se soutient énormément. Et en fait, c'est de la co-formation. Et quand on écoute les jeunes collègues qui arrivent dans notre GD, eh bien, souvent, on entend dire « Waouh !» Vous me formez, et j'ai jamais été formée comme ça par l'institution, et de fait, je ne le serai jamais. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très fort. On a aussi beaucoup de collègues qui, en réalité, utilisent des éléments de ces pédagogies-là, sans pour autant se revendiquer d'un mouvement pédagogique, mais voilà, qui vont être tournés vers... des choses qui sont au service des enfants, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et là, par exemple, à Paris, le 7 octobre prochain, on organise le Salon parisien de la pédagogie Freinet à la Bourse du Travail à République, qui est ouvert à toutes et tous, et où il va y avoir une série d'ateliers, des discussions sur tout ce qu'on peut mettre en place en classe de façon modeste ou plus confirmée. Mais voilà, c'est la force, c'est le collectif de travail, vraiment.
Tu peux nous rappeler ce salon, s'il te plaît, le lieu, l'horaire?
Oui, donc le salon, il a lieu donc le 7 octobre, c'est un samedi, de 10h à 17h, toute la journée, à la Bourse du Travail à République. Et donc, il y aura des ateliers, donc des ateliers thématiques. D'ailleurs, on accueillera aussi d'autres personnes. On accueillera le collectif qui a écrit « Entrée en pédagogie antiraciste » qui va paraître là bientôt à la fin du mois. Il y aura aussi des ateliers de pratique Freinet. Voilà, il y aura un atelier démarré en pédagogie Freinet. Et puis à la fin, il y aura une grande discussion en plénière sur la question de la démocratie dans nos classes. Voilà.
Je pense qu'on a un bon programme qui nous attend. Donc prenez note de ce rendez-vous. Et puis surtout, on a un nouvel invité en réalité. Donc bonjour Arthur.
Bonjour.
Bonjour.
Tu peux te présenter succinctement pour nos auditeurs et auditrices qui nous accompagnent depuis 10h ce matin.
Eh bien, je suis professeur des écoles, dans la même école que les autres invités, je crois. Dans une classe de CE2 cette année, et je participe au collectif Question de classe qui édite le livre de Magali, et je suis syndiqué à Sud Éducation.
Eh bien, enchanté, merci d'être là. Donc, tu rejoins la conversation.
Désolé pour mon retard.
Ok, ceci, c'est normal, c'est comme ça, c'est le samedi matin. Puis c'est la rentrée aussi, hein, donc compliqué. Mais on parlait du pacte enseignant, et est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à nous dire dessus? On a parlé un petit peu des difficultés en fait, que ça a créé au sein même de la solidarité entre collègues, parce que ça pouvait mettre en compétition les professeurs entre eux. Mais très concrètement, dans le primaire, ça a des effets vraiment visibles là, cette rentrée.
Eh bien, écoutez, moi, je pensais qu'on allait me le proposer au début de l'année, et puis en fait, non. Donc, je ne sais pas trop comment ça s'est organisé, finalement, la question du pacte. Est-ce que c'est parce que notre directrice savait que, de toute façon, on dirait non, qu'on ne nous l'a pas proposé fin juin? En tout cas, ça illustre aussi, je pense, la question un peu de l'arbitraire qu'introduit le management dans les écoles.
Ça fait pchit, quoi, on va dire ça. En tout cas à Paris et plus particulièrement et voilà. Dans nos écoles.
Et puis je pense qu'on ne connaît personne qui a signé le pacte dans une école. Enfin moi en tout cas j'en connais pas.
Moi non plus.
Donc ça va être difficile de pouvoir en parler concrètement.
Et puis difficile vu à quel point que c'est des heures qui sont défiscalisées et désocialisées. Pas d'impôts, pas de cotisations sociales. et pas de révalorisation du salaire, donc
pas très attractif.
Voilà, pas très attractif comme offre. Donc,
pas très attractif, et je crois qu'encore une fois, il y a une différence entre la propagande qui est faite à ce sujet en promettant monts et merveilles aux enseignants qui accepteraient de le signer, et puis la réalité.
Oui.
C'est qu'on n'est pas dupe non plus de ce qu'on entend dans les médias et de toute la propagande qui est faite autour de ça. Alors que quand on est sur le terrain, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Quoi.
Oui, et puis la réalité de travail aussi, c'est-à-dire que très concrètement, pour pouvoir avoir accès aux revenus du pacte, il faut travailler plus. Et c'est un métier où on travaille déjà énormément. Il n'y a pas que les 24 heures devant élèves par semaine. Il y a aussi les préparations, il y a aussi les réunions, etc.
Bah, c'est tout à fait vrai. En fait, je pense qu'on a ce cliché toujours bien ancré dans les têtes que les enseignants ne travaillent pas, qu'ils ont moins d'heures, que vraiment c'est un métier formidable. Voilà, vous êtes toujours en vacances. Et en fait, cette histoire de pacte, ça permet de dire non, en fait, ils sont déjà surchargés et leur rajouter des heures, c'est un scandale. Et c'est pour ça d'ailleurs que je comptais vous proposer une petite interlude musicale qui s'intitule Un éloge de l'oisiveté. Je pense que ça sera bien dans la thématique.
Très bien choisi.
Tout à fait.
Radio Libertaire 89.4. Nous venons donc d'écouter un éloge de l'oisiveté du quintet de jazz expérimental utopique, donc extrait de leur dernier album Différentes Perspectives, au pluriel je précise. Et maintenant nous revenons en compagnie de nos trois invités, puisque ça y est, nous en avons bien trois. Magali, donc, qui nous a parlé beaucoup de la pédagogie Freinet, Géraldine et Arthur. Et d'ailleurs Géraldine, je crois qu'il est temps de parler de ton statut.
Oui, vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qu'est un PVP, autrement dit un professeur de la ville de Paris. Alors un statut assez particulier puisque, comme son nom l'indique, nous n'existons qu'à Paris. Et nous intervenons dans les écoles élémentaires uniquement, du CP au CM2 et uniquement à Paris intramuros. Ces professeurs de la ville de Paris dispensent les trois disciplines artistiques et sportives que sont la musique, les arts plastiques et l'éducation physique et sportive, pour mon domaine en tout cas, permettant aux élèves parisiens de bénéficier d'un enseignement spécialisé dans ces trois disciplines, qui est une chance par rapport au reste des élèves scolarisés au niveau national.
D'accord. Voilà. Et dans ce cas-là, comment ça s'organise au sein des autres écoles en dehors de Paris? Comment les profs...
Alors, ces trois disciplines sont enseignées... par les professeurs des écoles qui doivent avoir la charge de ces trois matières, sauf si les municipalités dédient un petit budget pour ces disciplines et recrutent des vacataires ou des contrats de courte durée, soit par des étudiants en STAPS, hein, donc en sciences et techniques des activités physiques, ou bien des étudiants au conservatoire qui vont peut-être intervenir sur une période de l'année avec une classe ou bien réaliser un projet. Mais ça, c'est des interventions de manière très ponctuelle. Alors que nous, professeurs de la ville de Paris, nous intervenons au quotidien avec un quota d'heures alloué à chaque classe, ce qui dépend des programmes de l'éducation nationale. Petit exemple, en EPS, les programmes comptent 3 heures d'éducation physique par semaine du CP jusqu'au CM2 et nous, PVP, nous en faisons 1h30. Donc l'heure et demie restante est à la charge des professeurs des écoles. Mais par contre, en musique, 1 heure d'art plastique, 1 heure de musique dans les programmes à Paris, elles sont dispensées par ces professeurs spécialisés, donc par mes collègues en musique et art plastique.
D'accord. Du coup, ça a du bon d'être enseignant à Paris et dans ce cas-là,
élève à Paris.
Oui, et élève à Paris. Donc, les enseignants qui sont en dehors de Paris doivent s'improviser. Prof de sport, prof de musique, prof d'art. Wow,
alors s'improviser est le bon terme parce que je pense qu'il y a encore, alors je n'ai pas fait moi cette formation, je ne suis pas professeur des écoles mais mes collègues pourront confirmer peut-être hein, ou non, mais il y a encore une vingtaine d'années je pense qu'il y avait une petite, un petit temps alloué à la formation des professeurs des écoles sur ces trois disciplines et oui petit, elle a peut-être quasiment disparu si ce n'est complètement, là je ne voudrais pas dire de bêtises mais je pense qu'il n'y a plus vraiment dans la formation des professeurs des écoles Bon, c'est un peu débrouillez-vous, quoi.
D'accord. Donc, ces formations, est-ce que ça se passe comment? Bah, les profs qui sont censés dispenser et ces cours, enfin...
Je pense que les fameux décloisonnements dont il est de plus en plus question dans les écoles permettent aux mes collègues professeurs des écoles de se faire des échanges de classe en disant voilà, moi je maîtrise davantage l'éducation physique que la musique, je vais te laisser mes élèves à charge pour la musique parce que vraiment je vais pas y arriver, pas gérer. À l'inverse, je prendrai ta classe pour dispenser des petites séances d'éducation physique où je me sens plus à l'aise. Enfin là, je sais pas ce que vous savez en dire, mais...
Après, au concours, que en tout cas moi j'ai passé il y a 5 ans, et je pense que pour le coup là ça n'a pas changé, on est recruté aussi sur nos compétences pour savoir animer une séance de musique, une séance d'art plastique et une séance de PS. Après, c'est pas parce qu'on sait rédiger une fiche de préparation de séance au concours qu'on sait vraiment l'animer ou qu'on le fait bien. Et je pense que ce qui se passe beaucoup, c'est qu'en réalité c'est des disciplines qui sont déjà dévalorisées dans la hiérarchie des disciplines scolaires. Et donc finalement, c'est des disciplines qui sont peu enseignées en tant que vrai enseignement. C'est plus qu'on... Allez, on va faire du dessin, on va chanter, on va aller jouer au ballon, ouais. Mais qui sont pas pensées comme des enseignants, qui sont peu pensées. Après, par certains, je pense qu'il y a certains professeurs des écoles qui font ça très bien, mais qui sont peu pensées comme ça, et puis qui sont aussi un petit peu les parents pauvres de... en termes de temps. C'est qu'on va placer la musique en fin de journée, et puis en fait, on dépasse toujours un peu notre programme, la demi-heure de musique, elle va se transformer en 10 minutes, où on va chanter une chanson à la fin de la journée. Quand il pleut, on va pas aller faire de PS parce que c'est pas très. De toute façon, c'est quand même moins important que de faire la dictée ou de faire. Et finalement, c'est des disciplines qui sont beaucoup moins bien enseignées. Et les professeurs de la ville de Paris, ça quand même assure le fait que c'est des disciplines qui sont réellement enseignées à Paris. Et je sais pas, ça serait intéressant de savoir de quand ça date et de comment, en termes de politique municipale, ça a été décidé, parce que c'est des grosses dépenses.
Et moi, j'aimerais bien revenir, puisque on parle de ce statut-là et du caractère, on va dire, plus qualitatif de l'enseignement parisien, du coup, de fait, et ce qui prouve bien quand même toujours un élitisme de cette capitale, enfin, dans l'enseignement en capitale. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est les contractuels qui sont donc engagés dans les autres régions en France pour assurer ces disciplines ponctuellement. Ils ont le même niveau d'études, qu'est-ce qu'ils ont fait
Non, pas du tout, pas forcément en tout cas. Du moins, ils peuvent l'avoir ou ne pas l'avoir.
Et est-ce qu'ils sont auto-rémunérés aussi?
Non, puis le statut ne sera pas du tout le même. Le statut d'un professeur de la ville de Paris est le même qu'un professeur des écoles. Donc on n'existe qu'à Paris, on est à peu près 700 personnes à l'échelle de Paris. Donc c'est un tout petit corps de métier. C'est pour ça aussi qu'on ne nous connaît pas trop et qu'on reste un peu dans l'ombre. Et même d'ailleurs, les parents d'élèves parisiens, des fois, sont surpris d'apprendre et de découvrir notre existence. Même, je crois que toi, tu disais tout à l'heure, avoir été
à Paris. Alors, moi, j'ai passé toute ma scolarité à Paris. Et effectivement, les statuts de professeur des écoles, je pensais que c'était généralisé à toute la France. Pour moi, c'était évident que mon professeur de français ou de mathématiques n'allait pas me faire faire cours de sport.
Voilà, parce que tu as bénéficié de PVP, comme moi.
Toute ma vie, sans prendre surtout sans prendre conscience que c'était un privilège.
Voilà, donc non, ça n'existe vraiment, effectivement, qu'à Paris. Donc, d'ailleurs, en dehors de Paris, personne ne nous connaît.
Et moi, j'ai passé le concours dans l'Académie de Grenoble. J'ai enseigné 2 ans à Valence. Et très concrètement, alors on parle des intervenants. En fait, en réalité, c'est dans le cadre de projets de classes à projets artistiques et culturels. On va faire appel donc à des intervenants spécialisés, mais c'est extrêmement ponctuel et ça s'adresse à très, très peu de classes. Et c'est vrai que partout ailleurs qu'à Paris... la formation, elle est minime. On nous demande, nous, professeurs des écoles, de faire tout ça. Et il faut savoir que, en plus, c'est minime, alors que à l'époque des écoles normales où les profs étaient vraiment, vraiment formés, la partie artistique, sportive et culturelle en formation initiale était quand même très conséquente. Ma mère était instite elle a été formée à faire de la danse avec les élèves. Elle a été formée à animer une chorale d'élèves. Elle a été formée à un certain nombre de pratiques en art plastique. Moi, j'ai jamais eu droit. Et pourtant, quand j'ai été débutante à Valence, eh bien, il a fallu que je m'y colle, quoi. Voilà.
Ce qui aussi, me questionne quand je repense à mon parcours scolaire, du coup, ça a été la façon dont mes professeurs donc de mathématiques français se sont mis soudainement à par exemple devoir m'enseigner l'anglais, et je les voyais dans un mal-être total parce qu'en fait ils avaient appris les mêmes mots que moi la veille et que ils étaient dans un état de frustration et surtout d'illégitimité, quoi. Ils se disaient mais c'est pas possible d'enseigner ça alors que moi-même j'ai pas été formée pour. Est-ce que ça s'est amélioré, parce que moi ça fait quand même 10 ans que j'ai quitté l'enseignement primaire, donc est-ce que ça s'est amélioré ou est-ce que ça reste toujours aussi chaotique?
Je sais qu'à une époque il y avait besoin d'une qu'on était obligé d'enseigner l'anglais si on avait la certification anglais. Et donc il y avait dans les écoles ceux qui avaient la certification et qui devaient prendre toutes les classes et ceux qui ne l'avaient pas. Et puis après il y a eu une réforme du concours, je ne sais pas quand, qui faisait que même si en fait on ne savait pas trop parler anglais, si on avait eu le concours, on avait la certification anglais. C'est mon cas.
D'office.
Et quand c'était l'anglais, parce qu'une époque dans notre école où nous travaillons, vous n'étiez pas encore arrivé, c'était l'allemand. Ah, je pense qu'il fallait avoir vraiment, la certification en allemand.
En fait, vous êtes plus professeur, alors, vous êtes des comédiens.
C'était allemand parce qu'il fallait valoriser la classe allemande en sixième du collège, qui perdait beaucoup d'effectifs. Et pour pouvoir maintenir cette classe d'allemand en sixième, bah, il fallait que les écoles élémentaires du quartier, plutôt que de faire de l'anglais avec les petits en élémentaire, fassent de l'allemand. Donc d'un coup, nos collègues qui étaient certifiés ou pas, donc avaient cette certification en anglais ou pas, là, c'est ce que disait Arthur. Bon, d'un coup, on a peut-être décrété qu'ils pouvaient l'avoir en allemand. Ça a arrangé un petit peu tout le monde.
Ça se traduit comment, ça, dans les classes, enseigner une matière ou une langue dans laquelle tu n'as aucune qualification? Ça doit être assez déroutant pour la personne qui va se retrouver face à des enfants et les enseigner, dont lui-même ignore totalement la connaissance.
Moi, par exemple, mon anglais date de mes années de lycéenne. Je fais la rebelle et je ne fais pas d'anglais avec mes élèves. Mais c'est pas bien. L'année dernière, il y a eu un papa qui est venu nous faire des cours d'italien parce que c'était sa langue maternelle. Ah, bon, d'accord. Mais en vrai, les collègues, ils utilisent des fichiers, ils vont faire écouter des chansons. Puis, on a des degrés différents de maîtrise. Et voilà. Mais c'est vraiment une initiation, on va dire.
C'est de la bidouille.
Oui, c'est du bricolage. Comme tu disais tout à l'heure, on est un peu. Notre métier, c'est être polyvalent et un peu acteur et actrice.
Oui. C'est vrai que, par exemple, dans l'école, il y a une collègue qui, je pense, parle très peu anglais, mais qui fait vraiment anglais à ses élèves. Et où, pour le coup, après, il y a du. On est quand même. On a du matériel. Elle utilise un manuel avec un CD où, en fait, finalement, elle parle peu, mais elle fait parler, elle passe des enregistrements. Donc, je pense que c'est pas forcément le.
Elle apprend en même temps.
Le plus simple, enfin l'idéal, mais je veux dire, des fois la débrouille, on y arrive quand même aussi. Je trouve qu'il faut. Enfin, je pense que les professeurs des écoles, de manière assez générale, on est quand même assez attaché aussi à la polyvalence du métier. Donc, c'est pas parce qu'on est nul en maths qu'on est forcément. Enfin, qu'il faudrait forcément qu'il y ait des profs de maths. On est censé maîtriser plein de choses qu'on peut pas maîtriser. Mais ça fait aussi partie du métier, je pense.
Après, sans parler forcément de. Enfin, sans critiquer, en fait, le métier de professeur des écoles, je pense que c'était pas notre intention. C'est plutôt de dire qu'il y a un droit aussi à la formation. C'est-à-dire que quand un professeur se sent pas forcément à l'aise avec soit une nouvelle matière, soit une matière où il trouve que voilà, ça a évolué, qu'il a besoin de se reformer, en fait, est-ce que c'est possible déjà pour lui de retrouver une formation? Après son diplôme, bien sûr.
Vas-y, Arthur, sur la formation, t'es plus calé que moi. Est-ce que la formation continue existe?
Après, le problème, c'est que je crois qu'il existe des choses en langue sur le temps des vacances, que si les gens sont vraiment très très motivés, ils peuvent faire des stages de langue de l'éducation nationale. Je suis pas trop sûr, mais je crois que ça existe. Après, il y a une dynamique en ce moment de destruction totale de la formation continue. Avec des sortes de réformes chaque année, ils réforment la formation continue et donc chaque année en fait les gens qui sont censés la mettre en place sont complètement dépassés parce qu'on les a pas prévenus, qu'ils ont pas eu le temps de le faire. Donc en fait moi j'ai l'impression que ça fait 4 ans en fait depuis le Covid que la formation continue est complètement à terre. Et puis sur un temps plus long il y a aussi comme il manque de personnel, qu'il manque de remplaçants, il n'y a plus aucune formation continue sur temps scolaire. Ce qui permettait à une époque, à des collègues, de faire par exemple un stage de 3 jours sur une pratique sur temps scolaire et de vraiment pouvoir se consacrer à la formation. Alors que maintenant, tout l'aspect formation continue se fait le mercredi après-midi, en gros. En tout cas, à Paris, c'est le mercredi après-midi. Ou après l'école, et donc les collègues sont beaucoup moins disponibles intellectuellement pour apprendre de nouvelles choses, et puis la formation est de moins bonne qualité qu'avant, je pense, et moins bien organisée. Donc en réalité, beaucoup de gens ne se forment plus.
D'accord. Enfin, moi, ce que je retiens, enfin, s'il y a une conclusion à faire de la situation générale dans les écoles, c'est que c'est aux enseignants maintenant de prendre les responsabilités pour s'organiser avec les parents et non à l'État et au ministre de l'Éducation de mettre en place de réelles solutions ou d'embaucher, de recruter. Pourtant, je pense, par exemple, donner des cours d'éducation civique ou même d'art, il y a plein d'étudiants qui sortent d'écoles d'art. On pourrait les empocher pour donner des cours artistiques à des enfants dans les écoles. Et c'est pas, l'éducation ne manque pas de moyens pour le faire. Mais on préfère toujours faire des économies sur le dos des enfants, surtout dans les quartiers où c'est des zones d'éducation prioritaire. Et on demande aux professeurs de prendre les responsabilités et de se débrouiller. Enfin, ces gens, t'arrives en tant que jeune enseignant, en plus, je pense que ça doit être assez... T'arrives dans un milieu professionnel où t'es totalement livré à toi-même, on te dit, il faut t'improviser, tout ça, et ça, sans réelle formation apparente.
Oui, oui, c'est vrai que c'est une réalité du métier. Et... où on doit être vraiment tout le temps... Alors après, c'est aussi notre cœur de métier, hein, de concevoir les enseignements, etc. Mais ce qui est dramatique, comme le disait Arthur, c'est que à l'heure actuelle, la formation continue, elle n'existe plus. Et du coup, une des manières de résister, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est les collectifs de travail et les mouvements pédagogiques qui vont... voilà, faire de l'auto-formation, des échanges de pratiques. Mais du coup, ça devient du militantisme. Et nous, dans notre, comment on appelle ça, dans notre culture professionnelle de base, gérée par, qui devrait être gérée par l'État, ben, c'est vraiment le parent pauvre, clairement. Et ça, c'est vraiment un scandale, effectivement.
Eh bien, je pense qu'on va maintenant peut-être se concentrer sur... un retour peut-être sur le dernier mouvement, le grand mouvement social d'ampleur qu'on a eu, qui a été donc la bataille contre la réforme des retraites. Et avant ça, en fait, il y a quand même un camarade qui nous a fait une petite pastille d'actualité pour nous dire « Hey, vous en faites pas, la grève continue !» Donc voilà, je pense qu'on va l'écouter tout de suite. Merci à Luc. On va écouter ce que tu nous as enregistré.
Coucou Radio Libertaire, bonjour les invités, si vous le voulez bien, je tenais à faire une petite pause actualité pour vous parler des éboueurs. Alors, quel rapport entre les profs et les éboueurs, me direz-vous ? Les points communs sont assez évidents quand on y réfléchit un peu. Des corps de métiers d'intérêt public, très peu considérés, invisibilisés, et dont la vision du grand public se résume parfois au ramassage de ces sous-produits indésirables le matin et le soir. Mais bon, surtout un monde de précarisation et de surcharge de travail. Ce qui a le plus précisément attiré mon attention ce mois-ci, c'est une grève des éboueurs sans papier d'un certain sous-traitant NTI. Donc voilà l'histoire en quelques mots. L'entreprise NTI, anciennement EPS, s'apparentait à une agence d'intérim dans la filière déchets. Les grandes entreprises du secteur, à savoir Veolia ou Paprec ou Suez, faisaient appel à elle pour compléter leurs équipes de manière ponctuelle, pour des prestations de quelques heures ou d'une journée. Et en écoutant les témoignages des sans-papiers travaillant pour NTI, on peut parler d'esclavage moderne. Donc pas d'heures supplémentaires payées, pas de congés payés, la prochaine mission communiquée par SMS au dernier moment, parfois à minuit, une absence de temps de repos avec parfois 3 jours de travail non-stop, pas d'indemnité lors des accidents de travail évidemment, un chantage au CERFA, donc ce document essentiel dans les procédures de régulation, des temps de trajet pouvant aller jusqu'à 8 heures par jour, etc. etc. Bon, en somme, une exploitation abusive et débridée, sans contrat, sans bulletin de paye, pendant parfois des années. Mais l'histoire ne s'arrête même pas là. Des travailleurs et des travailleuses, elles-mêmes se sont rendues compte que les forfaits dérisoires qu'elles percevaient, donc ça allait de 60 à 80 euros par jour grand max, n'étaient pas reçus via un virement de l'entreprise. Les paiements émanaient de sociétés inconnues, différentes d'une personne à l'autre, ou même d'un jour sur l'autre. Et là, c'est du côté de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, donc l'OCRGDF, qu'on en apprend davantage. Parce qu'un des dirigeants de NTI est au cœur d'un réseau de blanchiment d'argent démantelé par l'OCRGDF depuis fin 2021. Bon, ça n'a pas empêché l'entreprise de continuer ses activités pendant plus d'un an. Bah jusqu'à ce que des salariés de NTI alertent l'inspection du travail en décembre 2022. Donc l'enquête est toujours en cours. L'entreprise a été liquidée mai 2023. Mais pas d'inquiétude parce que les autres dirigeants de NTI ont quitté le navire pour fonder une nouvelle société, AR Environnement, qui vante sur son site qu'elle a la confiance de Suez et de Paprec. Donc bon, exploitation de sans-papiers, travail d'intérêt public sous-traité, financement par de l'argent sale, dirigeants corrompus, bon, tout ce qui manque là, à ce niveau-là, c'était juste une bonne grève. Et donc, le 28 août, une dizaine d'anciens travailleurs sans-papiers de NTI entamaient l'occupation d'un centre de tri de Veolia à Paris. Les personnes sont soutenues par la CGT et quelques députés comme Pierre Larouturou. Elles exigent la reconnaissance de leurs préjudices et la régularisation de leur situation, notamment auprès de Veolia, Paprec ou Suez, qui, en bon client, profitaient directement de leur exploitation. Aux dernières nouvelles, les négociations sont en cours, avec la promesse d'embauche pour une dizaine de personnes annoncée par Veolia. Donc on souhaite force et soutien aux grévistes. Je souhaitais aussi rappeler que, de manière générale, la régularisation des sans-papes ne devrait aucunement être conditionnée par leur travail. En effet, une récente tribune émanant d'un petit groupe transpartisan défendait en début de semaine l'urgence de réguler les travailleurs et travailleuses sans papier dans tous les secteurs du travail en tension. Mais derrière ce que les signataires estimaient être un projet humaniste, selon leurs propres termes, se cache une vision utilitariste de la régularisation avec le récit du migrant essentiel à l'économie du pays. Donc je cite la France qui se lève tôt. Ce sont aussi elles et eux si utiles, si nécessaires, en parlant des migrants sans papier. Donc, et à contrario, j'imagine, des sans-papiers inutiles et non nécessaires, sans doute. Bon, vous l'aurez sûrement deviné, cette tribune n'émane pas de l'extrême gauche, mais principalement d'un petit groupe d'élus Europe Écologie Les Verts, Modem, PS, PCF, et oui, Fabien Roussel a signé cette tribune, quel hasard! Mais également de députés de Renaissance et d'autres droites. Bon, heureusement, les critiques envers la tribune ne se sont pas fait attendre, tant à gauche qu'à droite, assez ironiquement, parce que tandis que la gauche dénonce une caution humaniste en vue de la loi immigration, de la femme Darmanin qui est à venir en novembre, la droite s'inquiète d'un brouillage des lignes politiques à droite qui se doit de renvoyer un message clair et ferme sur les sujets de l'immigration. Bref. Jeune prof, personnel médico-social, éboueur, faites bien attention au travail, car si vous vous faites trop exploiter, vous finirez gréviste.
Merci Luc pour cette petite pastille qui nous remonte un peu le moral de savoir qu'il y a des grèves qui reprennent enfin après ces vacances. Quelle joie! Et du coup, je pense que ça nous fait une occasion parfaite pour revenir sur les nombreuses grèves qu'il y a eu ces derniers mois. Malheureusement, pas très fructueuses, mais justement, on va peut-être se demander pourquoi. Grand silence. Donc en fait, la réforme des retraites, on n'en parle plus, c'est tabou, c'est fini. Vraiment là, on veut plus, on met des œillères, c'est la fin. Vous avez capitulé.
Pourquoi on n'a pas réussi?
Vous avez 15 minutes.
Pourquoi?
Alors qu'on a été, dans notre école, on a été en grève à toutes les dates qui ont été appelées, plus quelques petits jours par-ci par-là, de manière plus ou moins... autonome. Déjà je vais préciser quelque chose, c'est que notre expérience, je pense à Géraldine, moi, Magali qui est partie, c'est une expérience du 19e arrondissement, d'un endroit où je pense qu'il y a le plus tôt fort de grévistes dans les écoles de France, où on a un réseau de grèves très, très fort et très organisé, avec vraiment un réseau professionnel et militant très dense. Donc je pense que ma sœur qui travaille en Savoie, dans une école en Savoie, elle n'a pas du tout ce même ressenti-là. Je pense que c'est important déjà de poser ce truc-là relativiser bases, aussi l'expérience que nous, on va pouvoir raconter. Après, j'ai l'impression que sur le pourquoi on n'a pas réussi, parce qu'on n'a pas bloqué le pays.
Oui. Bah oui, mais la question c'est de savoir, en fait, je pense qu'on est un peu tous et toutes d'accord pour se dire, mais en fait, on est parti en grève, puis on est parti un peu, les éboueurs, puis les raffineurs, puis les profs, et en fait, il n'y a jamais eu de synchronisation, quoi. Et en fait, le problème, c'est que moi j'ai une question, c'est que l'intersyndicale s'est fait pourquoi? Pour synchroniser, peut-être, je sais pas. Et apparemment, ça n'a pas trop eu lieu. Du coup, est-ce qu'on peut revenir sur le rôle de l'intersyndicale?
Alors, moi, je vais parler de mon avis sur la question. J'ai l'impression que l'intersyndicale, elle a adopté une stratégie de se dire qu'en étant le plus unitaire possible, c'était ça qui permettrait de créer le plus gros rapport de force. Et donc, il fallait garder tout le monde dans l'intersyndicale, même la CFDT. Et avec quelque chose quand même d'assez déterminé, avec au début, comme dans tous les mouvements, on commence par des journées hebdomadaires ou toutes les deux semaines. Et que cette unité, elle était assez convaincante au début. Et que je pense qu'elle a réussi à, bah, elle a réussi à mettre énormément de monde dans la rue. Et donc, les gens ont fait globalement confiance à la stratégie de l'intersyndicale. Parce que de fait, ça marchait plutôt bien, parce qu'on avait des manifs énormes rapidement qui grossissaient, que ça réussissait à quand même mettre le sujet de la réforme des retraites sur la table. Mais après, moi, ce que j'ai, enfin ce qu'on a rapidement dans différents endroits remarqué, c'est que par contre, la dimension d'auto-organisation de la grève. Notamment par les assemblées générales, ce qui est quand même l'endroit où traditionnellement on s'organise pour faire des grèves, n'arrivait pas à vivre. Moi, je vois dans l'assemblée générale des enseignants grévistes qu'on a, nous, à Paris, de manière traditionnelle, il y a une grève, il y a une assemblée générale, c'est un acquis des autres luttes. Mais aussi dans des AG de quartier où j'ai pu participer, où par rapport à 2019, la précédente bataille contre la réforme des retraites, il y avait énormément de monde dans les assemblées générales, il y avait des choses dynamiques qui s'y faisaient. Là, en réalité, c'est des assemblées générales qui étaient un peu vidées de leur sens, parce que finalement, il y avait une intersyndicale très forte qui avait une stratégie et que les gens y suivaient la stratégie de l'intersyndicale sans se réapproprier vraiment la grève.
Et du coup, comment se réapproprier les futures grèves? Parce que où en est un peu la température quoi, des établissements? Est-ce qu'il y a encore de la tension? Est-ce qu'il y a encore du mécontentement? Est-ce que ça y est, c'est bon, c'est abandonné de toute façon, c'est derrière nous et on va faire avec, et c'est 2 ans de plus, et puis tant pis quoi.
Moi, je crois que la tension et le mécontentement sont toujours là. Après, est-ce que en cette période de rentrée... Je suis pas sûre que c'est été déjà mis en avant. On en a parlé tout à l'heure. Il y a tellement de chevaux de bataille et de combats à mener en cette rentrée, autant sur les effectifs trop chargés des classes, le manque d'enseignants, d'AESH, enfin tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. C'est vrai que là, en cette période de rentrée, moi personnellement et avec mes collègues et à l'échelle de notre école, non, là sur ces luttes et sur ces mouvements-là. Sans que ce soit abandonné, hein, quelque part, ça n'a pas été évoqué. Enfin...
Après, je pense qu'il y a la dimension financière pour les enseignants qui ont fait beaucoup grève l'année dernière, qui jouent quand même beaucoup sur la rentrée.
On les paye encore là, aujourd'hui, les grèves de l'an dernier. Hein, on n'a pas encore terminé de les payer.
4 mois avec 400 euros de moins sur sa fiche de paie, ça a fait mal.
Oui.
Alors même si la solidarité s'organise et qu'on a des caisses de grève qui permettent de compenser un petit peu, mais...
Et on ne signera pas le pacte pour autant, donc il va falloir trouver d'autres solutions.
C'est bien de le rappeler.
Oui, merci pour ça.
Donc là, c'est sûr qu'à la rentrée, il y a un petit coup un peu de... Et puis, je pense que la rentrée, en réalité, on a un peu un fantasme de... Il existe un fantasme de se dire, on bloque la rentrée.
Oui.
Moi, j'ai décidé de plus croire à ce fantasme-là, en tout cas pour dans les écoles primaires. Enfin, où en fait, on bloquera pas la rentrée, on bloquera jamais la rentrée. Enfin, je veux dire, on a nos élèves, il y a quelque chose qui, si on commence à, enfin, en fait, si on arrive à tenir dans ce boulot, c'est parce qu'on y trouve du sens. Et en fait,
et personne ne veut ça pour ses élèves.
Et en fait, on fera pas. Enfin, donc peut-être que dans le second, je parle pas pour le secondaire parce que peut-être que je pense qu'il y a peut-être un rapport au métier qui est un peu différent, un rapport aussi aux difficultés. Et en fait, c'est quelque chose qui arrive plus souvent.
Non, mais dans le secondaire, c'est les élèves qui bloquent la rentrée.
Je dis pas qu'il faudrait pas le faire, ça se trouve, ça serait une bonne stratégie de bloquer la rentrée. Mais clairement, je pense que c'est un peu un... Moi, je sais pas si c'est un fantasme très utile pour les luttes. Parce que je pense qu'il est vraiment... même dans les endroits, les foyers de lutte, comme dans nos écoles, dans notre quartier, là, où c'est des endroits où il y a vraiment beaucoup de grévistes, je pense que personne ne fera jamais ça, en fait.
Oui, je pense que la défaite de la retraite a un peu mis à mal les gens qui étaient motivés tout au long de l'année, qui allaient à tous les manifs, dans les AG. Moi, je suis à la fac et vraiment, cette année, on s'est donné à fond. Moi, j'ai vu des gens dans un AG avec qui je les avais jamais vus en manif. Pourtant, ça fait des années qu'il y a des mouvements qui sont mis en place et il y a énormément d'étudiants qui se sont politisés au cours de cette année par la réforme de la retraite. Et là, le fait de se dire « Ah non, mais ça a été un échec », il y en a encore certains qui ont l'espoir que ça n'arrête pas et qu'on bloque les facs, qu'on se mobilise. Il y en a qui sont quand même un peu défaitistes, qui se disent « On a fait tout ça pour au final, ça n'a pas été concret et ça n'a rien donné. » Et comme on parlait aussi des salaires, il y a une précarité qui est immense en ce moment. Et le fait de se dire, en tant qu'enseignant ou même étudiant qui travaille pour souvenir à ses besoins, je vais aller encore manifester, je vais prendre des joues, c'est un peu complexe.
Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que ce mouvement là, de l'hiver dernier a eu pour... Bon, même si on va dire que c'est perdu, c'est une bataille qui n'a pas été remportée. Par contre, je crois que ça a eu le mérite de... même sans politiser des personnes qui ne l'étaient pas, mais en tout cas de motiver des gens à ne plus se laisser faire sur certains domaines. Tu parlais d'étudiants qui, là, ont réalisé qu'il fallait quand même se mobiliser, qui ne l'auraient pas fait avant pour d'autres causes. Je pense que c'est les enseignants, ça a été peut-être un petit peu la même chose. Moi, je dis pas que j'ai une conscience politique ou militante qui est née de ça. En revanche, c'est la première année, le premier mouvement, la première lutte sociale qui me fait me mobiliser à ce point-là, qui me déçoit effectivement énormément et qui fait que si d'autres luttes sont à venir, j'y participerai au mieux, en tout cas, en donnant tout ce que je peux. Donc c'est finalement pour moi un côté positif dans cette défaite.
On va peut-être rester sur cette note d'espoir, ce serait plutôt pas mal. Et du coup, je vous remercie beaucoup d'être venus. Alors tous les trois, malheureusement, du coup Magali a dû partir puisqu'elle tient le stand des éditions Libertalia à la fête de l'UMA. Donc là, c'est à partir de midi jusqu'à 18h. Et elle va être, il va y avoir du coup une séance de dédicace à 17h. Donc si vous êtes dans le coin de la fête de l'UMA, passez faire un tour, parlez avec Magali. Dites-lui à quel point vraiment sa méthode freinait. C'est incroyable. Et puis, merci Géraldine pour tous ces points, ces retours sur ton statut particulier et puis aussi sur ton engagement dans la lutte contre la réforme des retraites. Et merci Arthur d'avoir pu faire ce retour et cette critique du coup du mouvement. Je pense qu'on va se laisser là avec cet étrange mélange de Claire Laffut proposé par Mariam. Donc, merci à vous, chers auditeurs, auditrices, et à une prochaine.
Quand t'étais perdu dans ton insta, je voulais juste vivre l'instant. Réponds à tous tes prétendants, on verra quand ils sont absents. On sait déjà tout ce qu'on ne sait pas, on se rapproche de tout ce qui nous sépare. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, tu love à l'italienne, baby. Étrange mélange, on fait étrange mélange, salive des anges. Du son du diable, étrange mélange. Je fais d'étranges mélanges. Je fais des rêves bizarres avec un soupçon de toi. Dernier DM, tu me détestes. Mon ADN reste sur ta veste. On sait déjà tout ce qu'on ne sait pas. On se rapproche de tout ce qui nous sépare. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Tu loves à l'italienne, baby. Étrange mélange, on fait étrange mélange. Salive des anges, suçon du diable. Étrange mélange, je fais d'étrange mélange. Je fais des rêves bizarres avec un soupçon de toi. Dolce Vita. J'ai encore envie, vida loca, nos rêves partis, n'en reviens pas. As-tu encore envie? Étrange mélange, on fait étrange mélange, salive des anges, suçon du diable. Étrange mélange, je cet étrange mélange. Je fais des rêves bizarres avec un soupçon de toi. J'aurais fait une autre histoire, mais nos destins se séparent. Quand l'amour fait volte-face, tu me rappelles que j'étais à toi. Dévoré par nos idées noires, sois l'ange à la beauté du diable. C'est la dérive au larmes, périr au drame. Étrange mélange, une fête étrange mélange. Salive des anges, suçon du diable. Étrange mélange, je fais d'étrange mélange. Je fais des rêves bizarres, avec un soupçon de toi.
Je vais vous dire les gars ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple mais ça l'est pas et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr. Et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. La tronque est sourd quand un seul jeun entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Radio Libertaire 89.4, les chroniques syndicales. Chroniques syndicales aujourd'hui avec Loïc Vacant, autour d'un voyage un peu particulier, un voyage au pays des boxeurs que Loïc a effectué dans les années 90 à Chicago.
Bonjour. Voilà.
Bonjour Loïc, tu peux peut-être dire un petit peu qui tu es et pourquoi tu as écrit un livre sur les boxeurs?
Alors je suis sociologue et à l'époque, à la fin des années 80, j'étais doctorant à l'université de Chicago dans le département qui est la Mecque de la sociologie américaine, et je voulais étudier le ghetto noir, et qui était littéralement à ma porte, puisque j'habitais dans un appartement qui était à la lisière entre le quartier blanc, huppé, de l'Université de Chicago, université privée très, très éminente, avec la plus grande concentration de prix Nobel au mètre carré du monde. Et de l'autre côté, au pas de ma porte, il y avait un quartier noir, ségrégué, pauvre et violent. Et je voulais comprendre, comme ça m'interpellait d'habiter à cet endroit-là, je voulais comprendre comment peut-on développer un territoire dans la ville qui a ses propriétés-là. Et je me suis tourné vers la littérature sociologique, et il m'a immédiatement semblé qu'elle était pleine de lieux communs et pleine d'un racisme bien déguisé, mais qui exprimait en quelque sorte le sens commun racial de la société américaine. Alors comme évidemment je venais de France, je ne partageais pas ce sens commun, là aussi il m'interpellait. Donc j'ai ressenti le besoin d'essayer de comprendre le ghetto de l'intérieur et par en bas, et non pas par en haut et de loin. Et donc j'ai cherché un point d'entrée. Et par une série de circonstances complètement fortuites, un ami m'a amené à la salle de boxe. Donc je suis rentré, il y avait une porte en métal à l'arrière d'un bâtiment qui paraissait à l'abandon mais qui ne l'était pas. Et j'ai été immédiatement saisi par l'atmosphère quasiment religieuse, par le fait de rentrer dans cette salle qui était un grand bâtiment en briques sans ouverture, dont l'objet principal dans la salle était un ring placé au milieu avec un parquet, des sacs suspendus au plafond pour faire son travail au sac, et à l'arrière une petite salle que j'appelle dans le livre le cockpit, une petite salle dans laquelle était assis le vénérable entraîneur Didi qui s'occupait de la salle. Et donc je suis allé avec cet ami dans l'arrière-salle et j'ai dit à Didi bonjour, et il m'a tout de suite demandé qu'est-ce que tu viens faire là.
Et là, t'étais le seul blanc quand même. Faut signifier que t'étais le seul blanc en plus.
Allez, au moment où je suis rentré dans le gym, j'étais le seul blanc. Et donc là, je m'entends lui dire, je voudrais apprendre à boxer. Pourquoi ? Parce que c'était évident qu'il y avait rien d'autre à dire, vu les circonstances, vu le lieu, vu l'atmosphère très prenante et très où les gens travaillaient, où les boxeurs travaillaient très dur à leur art. Il m'aurait semblé tout à fait incongru de lui dire je voudrais rencontrer des jeunes du quartier, ou je voudrais m'asseoir sur le côté et observer. Non, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était s'inscrire. Et donc il m'a bandé les mains, il m'a envoyé sur le parquet devant un miroir en me disant de faire comme faisaient les autres. Et pour vous dire à quel point j'étais pas préparé à cet apprentissage, c'est que le premier jour, mais ça n'a pas duré plus longtemps que le premier jour, je suis allé sur le parquet avec mes lunettes. Et donc des boxeurs qui ont fait une carrière avec des lunettes, il n'y en a quand même pas beaucoup.
Pas beaucoup, oui. Voilà. Ce que tu peux peut-être aussi expliquer avant qu'on rentre dans le livre, c'est qu'il y a eu un glissement, d'une certaine manière, puisqu'on appelait ça autrefois le noblard, était donc pratiqué par l'aristocratie britannique d'abord, et qui est devenu un sport aussi populaire, aussi bien d'ailleurs ici en France qu'aux États-Unis, où c'est plutôt dans les quartiers, comme on dit aujourd'hui, que se pratique la boxe, où on espère se sortir de je ne sais pas trop quoi, et peut-être de la misère ou pas, par la boxe.
Alors c'est dès la fin du 19e siècle que le